à Léon Werth. Je demande pardon aux enfants d'avoir dédié ce livre à une grande personne.
J'ai une excuse sérieuse. Cette grande personne est le meilleur ami que j'ai au monde.
J'ai une autre excuse. Cette grande personne peut tout comprendre, même les livres pour enfants.
J'ai une troisième excuse. Cette grande personne habite la France où elle a faim et froid.
Si toutes ces excuses ne suffisent pas, je veux bien dédier ce livre à l'enfant qu'a été autrefois cette grande personne.
Toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants, mais peu d'entre elles s'en souviennent.
Je corrige donc ma dédicace.
À Léon Werth, quand il était petit garçon.
Lorsque j'avais 6 ans, j'ai vu une fois une magnifique image dans un livre sur la forêt vierge qui s'appelait « Histoire vécue ». Ça représentait un serpent boa qui avalait un fauve. Voilà la copie du dessin. On disait dans le livre, les serpents bois avalaient leur proie tout entière sans la mâcher. Ensuite, ils ne peuvent plus bouger et ils dorment pendant les 6 mois de leur digestion. J'ai alors beaucoup réfléchi sur les aventures de la jungle et, à mon tour, j'ai réussi, avec un crayon de couleur, à tracer mon premier dessin. Mon dessin numéro 1. Il était comme ça. J'ai montré mon chef-d'œuvre aux grandes personnes et je leur ai demandé si mon dessin leur faisait peur. Elles m'ont répondu « Pourquoi un chapeau ferait-il peur ?» Mon dessin ne représentait pas un chapeau, il représentait un serpent boa qui digérait un éléphant. J'ai alors dessiné l'intérieur du serpent boa afin que les grandes personnes puissent comprendre. Elles ont toujours besoin d'explications. Mon dessin numéro 2 était comme ça. Les grandes personnes m'ont conseillé de laisser de côté les dessins de serpents boa ouverts ou fermés et de m'intéresser plutôt à la géographie, à l'histoire, au calcul et à la grammaire. C'est ainsi que j'ai abandonné, à l'âge de 6 ans, une magnifique carrière de peintre. J'avais été découragée par l'insuccès de mon dessin numéro 1 et de mon dessin numéro 2. Les grandes personnes ne comprennent jamais rien toutes seules, et c'est fatigant pour les enfants de toujours et toujours leur donner des explications. J'ai donc dû choisir un autre métier, et j'ai appris à piloter des avions. J'ai volé un peu partout dans le monde, et la géographie, c'est exact, m'a beaucoup servi.
Ça ne fait rien, dessine-moi un mouton. Comme je n'avais jamais dessiné un mouton, je refis pour lui l'un des deux seuls dessins dont j'étais capable. Celui du boa fermé. Et je fus stupéfait d'entendre le petit bonhomme me répondre. Non, non, je ne veux pas d'un éléphant dans un boa. Un boa, c'est très dangereux. Et un éléphant, c'est très encombrant. Chez moi, c'est tout petit. J'ai besoin d'un mouton. Dessine-moi un mouton. Alors j'ai dessiné. Il regarda attentivement. Puis, non, celui-là est déjà très malade. Fais-en un autre. J'ai dessiné. Mon ami sourit gentiment, avec indulgence. Tu vois bien, ce n'est pas un mouton, c'est un bélier, il y a des cornes. Je refis donc encore mon dessin, mais il fut refusé comme les précédents. Celui-là est trop vieux, je veux un mouton qui vive longtemps. Alors, faute de patience, comme j'avais hâte de commencer le démontage de mon moteur, je griffonnai ce dessin-ci, et je lançai. Ça, c'est la caisse. Le mouton que tu veux est dedans. Mais je fus bien surpris de voir s'illuminer le visage de mon jeune juge. C'est tout à fait comme ça que je le voulais. Crois-tu qu'il faille beaucoup d'herbe à ce mouton ? Pourquoi ? Parce que chez moi, c'est tout petit. Ça suffira sûrement. Je t'ai donné un tout petit mouton. Il pencha la tête vers le dessin. Pas si petit que ça. Tiens, il s'est endormi. Et c'est ainsi que je fis la connaissance du petit prince.
J'ai ainsi vécu seul, sans personne avec qui parler véritablement, jusqu'à une panne dans le désert du Sahara, il y a 6 ans. Quelque chose s'était cassé dans mon moteur. Et comme je n'avais avec moi ni mécanicien, ni passager, je me préparais à essayer de réussir, tout seul, une réparation difficile. C'était pour moi une question de vie ou de mort. J'avais à peine de l'eau à boire pour 8 jours. Le premier soir, je me suis donc endormi sur le sol, à 1000 miles de toute terre habitée. J'étais bien plus isolée qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. Alors, vous imaginez ma surprise, au lever du jour, quand une drôle de petite voix m'a réveillée. Elle disait « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. »« Hein ? Dessine-moi un mouton. » J'ai sauté sur mes pieds comme si j'avais été frappée par la foudre. J'ai bien frotté mes yeux, j'ai bien regardé, et j'ai vu un petit bonhomme tout à fait extraordinaire qui me considérait gravement. Voilà le meilleur portrait que, plus tard, j'ai réussi à faire de lui. Mais mon dessin, bien sûr, est beaucoup moins ravissant que le modèle. Ce n'est pas ma faute. J'avais été découragée dans ma carrière de peintre par les grandes personnes, à l'âge de 6 ans. Et je n'avais rien appris à dessiner, sauf les bois fermés et les bois ouverts.
Il me fallut longtemps pour comprendre d'où il venait. Le petit prince, qui me posait beaucoup de questions, ne semblait jamais entendre les miennes. Ce sont des mots prononcés, par hasard, qui, peu à peu, m'ont tout révélé. Ainsi, quand il aperçut pour la première fois mon avion, je ne dessinerai pas mon avion, c'est un dessin beaucoup trop compliqué pour moi. Il me demanda, « Qu'est-ce que c'est que cette chose-là ? » ?»« Ce n'est pas une chose, ça vole, c'est un avion. » C'est mon avion. Et j'étais fière de lui apprendre que je volais. Alors, il s'écria. Comment ? Tu es tombée du ciel ? Oui, fis-je modestement. Ah, ça c'est drôle. Et le petit prince eut un très joli éclat de rire qui m'irrita beaucoup. Je désire que l'on prenne mes malheurs au sérieux. Puis, il ajouta. Alors, toi aussi tu viens du ciel ? De quelle planète es-tu ? J'entrevis bientôt une lueur dans le mystère de sa présence. Et j'interrogeai brusquement. « Tu viens donc d'une autre planète ?» Mais il ne me répondit pas. Il hochait la tête doucement tout en regardant mon avion. « C'est vrai que, là-dessus, tu ne peux pas venir de bien loin. » Et il s'enfonça dans une rêverie qui dura longtemps. Puis, sortant mon mouton de sa poche, il se plongea dans la contemplation de son trésor.
« Chaque jour, j'apprenais quelque chose sur la planète. Sur le départ, sur le voyage, ça venait... Tout doucement, au hasard, des réflexions. C'est ainsi que, le troisième jour, je connus le drame des baobabs. Cette fois-ci encore, ce fut grâce au mouton, car brusquement, le petit prince m'interrogea, comme pris d'un doute grave. C'est bien vrai, n'est-ce pas, que les moutons mangent les arbustes ? Oui, c'est vrai. Ah, je suis content. Je ne compris pas pourquoi il était si important que les moutons mangeassent les arbustes, mais le petit prince ajouta. Par conséquent, ils mangent aussi les baobabs. Je fis remarquer au petit prince que les baobabs ne sont pas des arbustes, mais des arbres grands comme des églises, et que si même... Il emportait avec lui un troupeau d'éléphants. Ce troupeau ne viendrait pas à bout d'un seul baobab.
Le cinquième jour, toujours grâce au mouton, ce secret de la vie du petit prince me fut révélé. Il me demanda avec brusquerie, sans préambule, comme le fruit d'un problème longtemps médité en silence. Un mouton, s'il mange les arbustes, il mange aussi les fleurs. Un mouton mange tout ce qu'il rencontre, même les fleurs qui ont des épines. Oui, même les fleurs qui ont des épines. Alors, les épines à quoi servent-elles ? Je ne le sais pas. J'étais alors très occupée à essayer de dévisser un boulon trop serré de mon moteur. J'étais très soucieuse, car ma peine commençait de m'apparaître comme très grave. Et l'eau à boire, qui s'épuisait, me faisait craindre le pire. Les épines à quoi servent-elles ? Le petit prince ne me renonçait jamais à une question. Une fois qu'il l'avait posée, j'étais irritée par mon boulon et je répondis n'importe quoi. Les épines, ça ne sert à rien. C'est de la pure méchanceté de la part des fleurs.
J'appris bien vite à mieux connaître cette fleur. Il y avait toujours eu, sur la planète du petit prince, des fleurs très simples, ornées d'un seul rang de pétales et qui ne tenaient point de place et qui ne dérangeaient personne. Elle apparaissait un matin dans l'herbe et puis elle s'éteignait le soir. Mais celle-là avait germé un jour, d'une graine apportée dans le ciel. Et le petit prince avait surveillé de très près cette brindille qui ne ressemblait pas aux autres brindilles. Ça pouvait être un nouveau genre de baobab. Mais l'arbuste cessa vite de croître et commença de préparer une fleur. Le petit prince, qui assista à l'installation d'un bouton énorme, sentait bien qu'il en sortirait une apparition miraculeuse. Mais la fleur n'en finissait pas de se préparer et être belle. À l'abri de sa chambre ouverte, elle choisissait avec soin ses couleurs. Elle s'habillait lentement, elle ajustait un à un ses pétales. Elle ne voulait pas sortir toute fripée comme les coquelicots. Elle ne voulait pas apparaître qu'en le plein rayonnement de sa beauté. Et oui, elle était très coquette. Sa toilette mystérieuse avait donc duré des jours et des jours. Et puis voici qu'un matin, justement à l'heure du lever du soleil, elle s'était montrée.
Il se trouvait dans la région des astéroïdes 325, 326, 327, 328, 329 et 330. Il commença donc par les visiter pour y chercher une occupation et pour s'instruire. Le premier était habité par un roi. Le roi siégeait, habillé de pourpre et d'hermine, sur un trône très simple et cependant majestueux. « Ah, voilà un sujet !» s'écria le roi quand il aperçut le petit prince. Et le petit prince se demanda « Comment peut-il me connaître puisqu'il ne m'a encore jamais vu ?» Il ne savait pas que, pour les rois, le monde était très simplifié. Tous les hommes sont des sujets. « Approche-toi que je te vois mieux !» lui dit le roi qui était tout fier d'être enfin roi pour quelqu'un. Le petit prince chercha des yeux où s'asseoir, mais la planète était tout encombrée par le magnifique manteau d'hermine. Il resta donc debout et, comme il était fatigué, il bâilla. « Il est contraire à l'étiquette de bâiller en présence d'un roi, » lui dit le monarque. « Je te l'interdis. »« Je ne peux pas m'en empêcher, » répondit le petit prince, tout confus. « J'ai fait un long voyage et je n'ai pas dormi. »« Alors, » lui dit le roi, « je t'ordonne de bâiller. » Je n'ai vu personne bâiller depuis des années. Les bâillements sont pour moi des curiosités. Allons, bâille encore, c'est un ordre. Ça m'intimide, je ne peux plus, fit le petit prince tout rougissant. répondit le roi. Alors je t'ordonne tantôt de bâiller et tantôt de... Il bredouilla un peu et paraissait vexé, car le roi tenait essentiellement à ce que son autorité fût respectée.
La seconde planète était habitée par un vaniteux. « Ha ha, voilà la visite d'un admirateur !» s'écria de loin le vaniteux dès qu'il aperçut le petit prince. Car pour les vaniteux, les autres hommes sont des admirateurs. « Bonjour !» dit le petit prince. « Vous avez un drôle de chapeau. »« C'est pour saluer !» lui répondit le vaniteux. « C'est pour saluer quand on m'acclame. »« Malheureusement, il ne passe jamais personne par ici. »« Ah oui ?» dit le petit prince qui ne comprit pas. « Frappe tes mains l'une contre l'autre, » conseilla donc le vaniteux. Le petit prince frappa ses mains l'une contre l'autre. Le vaniteux saluait modestement en soulevant son chapeau. « Ça, c'est plus amusant que la visite du roi, » se dit en lui-même le petit prince. Et il recommença de frapper ses mains l'une contre l'autre. Le vaniteux recommença de saluer en soulevant son chapeau. Après 5 minutes d'exercice, le petit prince se fatigua de la monotonie du jeu. « Et pour que le château tombe, le chapeau tombe, » demanda-t-il. « Que faut-il faire ?» Mais le vaniteux ne l'entendit pas. Les vaniteux n'entendent jamais que les louanges. « Est-ce que tu m'admires vraiment beaucoup ?» demanda-t-il au petit prince. « Qu'est-ce que signifie « admirer » ?»« Admirer » signifie « reconnaître que je suis l'homme le plus beau, le mieux habillé, le plus riche et le plus intelligent de la planète. Mais tu es le seul sur ta planète. Fais-moi ce plaisir. » « Admire-moi quand même. »« Je t'admire, » dit le petit prince en haussant un peu les épaules. « Mais en quoi cela peut-il bien t'intéresser ?» Et le petit prince s'en fut. « Les grandes personnes sont décidément bien bizarres, » se dit-il simplement lui-même durant son voyage.
La planète suivante était habitée par un buveur. Cette visite fut très courte, mais elle plongea le petit prince dans une grande mélancolie.
« Que fais-tu là ?»
dit-il au buveur, qu'il trouva installé en silence devant une collection de bouteilles vides et une collection de bouteilles pleines.
« Je bois, » répondit le buveur d'un air lugubre.
« Pourquoi bois-tu ?»
lui demanda le petit prince.
« Pour oublier. »«
Pour oublier quoi ?»
s'inquiéta le petit prince qui déjà le plaignait.
« Pour oublier que j'ai honte. »
avoua le buveur en baissant la tête.
« Honte de quoi ?»
s'informa le petit prince qui désirait le secourir.
« Honte de boire !»
acheva le buveur, qui s'enferma définitivement dans le silence et le petit prince s'en fut perplexe.
« Les grandes personnes sont décidément très très bizarres !»
se disait-il en lui-même durant le voyage.
La quatrième planète était celle du businessman. Cet homme était si occupé qu'il ne leva même pas la tête à l'arrivée du petit prince. « Bonjour !» lui dit celui-ci. « Votre cigarette est éteinte. » 3 et 2 font 5. 5 et 7, 12. 12 et 3, 15. Bonjour. 15 et 7, 22. 22 et 6, 28. Pas le temps de la rallumer. 26 et 5, 31. Ouf!
Ça fait donc 501 622 731. 500 millions de quoi? Hein? Tu es toujours là? 1501 millions de... Je ne sais plus. J'ai tellement de travail. Je suis sérieux, moi. Je ne m'amuse pas à des balivernes. 2 et 5, 7... 501 millions de quoi? Répéta le petit prince, qui jamais de sa vie n'avait renoncé à une question une fois qu'il l'avait posée. Le businessman leva la tête. Depuis 54 ans que j'habite cette planète-ci, je n'ai été dérangé que 3 fois. La première fois, ça a été il y a 22 ans, par un nonneton qui était tombé, Dieu sait d'où. Il répandait un bruit épouvantable. Et j'ai fait 4 erreurs dans une addition. La seconde fois, ça a été il y a 11 ans, par une crise de rhumatisme. Je manque d'exercice. Je n'ai pas le temps de flâner. Je suis sérieux, moi. La troisième fois, la voici. Je disais donc 501 millions. Millions de quoi? Le businessman comprit qu'il n'était point d'espoir de paix. Millions de ces petites choses que l'on voit quelquefois dans le ciel. Des mouches? Mais non, des petites choses qui brillent. Des abeilles? Mais non! Des petites choses dorées qui font rêvasser les fainéants. Mais je suis sérieux, moi. Je n'ai pas le temps de rêvasser. Ah! Des étoiles? C'est bien ça, des étoiles. Et que fais-tu de 500 millions d'étoiles? 501 622 531. Je suis sérieux, moi. Je suis précis. Et que fais-tu de ces étoiles? Ce que j'en fais? Oui. Rien. Je les possède. Mais j'ai déjà vu un roi qui... Les rois ne possèdent pas. Ils règnent sur. C'est très différent. Et à quoi cela te sert-il de posséder les étoiles? Ça me sert à être riche. Et à quoi cela te sert d'être riche? À acheter d'autres étoiles si quelqu'un en trouve. Celui-là, se dit en lui-même le petit prince, il résonne un peu comme mon ivrogne.
La quatrième planète était celle du businessman. Cet homme était si occupé qu'il ne leva même pas la tête à l'arrivée du petit prince. « Bonjour, lui dit celui-ci, votre cigarette est éteinte. 3 et 2 font 5, 5 et 7, 12, 12 et 3, 15, bonjour, 15 et 7, 22, 22 et 6, 28, pas le temps de la rallumer, 26 et 5, 31, ouf, ça fait donc 501 622 731. 500 millions de quoi? Hein? Tu es toujours là? 501 millions de... Je ne sais plus, j'ai tellement de travail. Je suis sérieux, moi, je ne m'amuse pas à des balivernes. 2 et 5, 7. 501 millions de quoi? Répéta le petit prince, qui jamais de sa vie n'avait renoncé à une question une fois qu'il l'avait posée. Le businessman leva la tête. Depuis 54 ans que j'habite cette planète-ci, je n'ai été dérangé que 3 fois. La première fois, ça a été il y a 22 ans, par un nanoton qui était tombé, Dieu sait d'où. Il répandait un bruit épouvantable, et j'ai fait 4 erreurs dans une addition. La seconde fois, ça a été il y a 11 ans, par une crise de rhumatisme. Je manque d'exercice, je n'ai pas le temps de flâner, je suis sérieux, moi. La troisième fois, la voici. Je disais donc, 501 millions. Millions de quoi? Le businessman comprit qu'il n'était point d'espérance de paix. Millions de ces petites choses que l'on voit quelquefois dans le ciel. Des mouches? Mais non, des petites choses qui brillent. Des abeilles? Mais non, des petites choses dorées qui font rêvasser les fainéants. Mais je suis sérieux, moi. Je n'ai pas le temps de rêvasser. Ah, des étoiles? C'est bien ça, des étoiles. Et que fais-tu de ces 500 millions d'étoiles? 501 millions d'étoiles, 622 131. Je suis sérieux, moi. Je suis précis. Et que fais-tu de ces étoiles? Ce que j'en fais? Oui. Rien, je les possède. Tu possèdes les étoiles? Oui. Mais j'ai déjà vu un roi qui... Les rois ne possèdent pas, ils règnent sur. C'est très différent. Et à quoi cela te sert-il de posséder les étoiles? Ça me sert à être riche. Et à quoi cela te sert-il d'être riche? À acheter d'autres étoiles si quelqu'un en trouve. Celui-là, se dit en lui-même le petit prince, il résonne un peu comme mon ivrogne.
La cinquième planète était très curieuse. C'était la plus petite de toutes. Il y avait là juste assez de place pour loger un réverbère et un animeur de réverbère. Le petit prince ne parvenait pas à s'expliquer. À quoi pouvait servir quelque part dans le ciel, sur une planète, sans maison, ni population, un réverbère et un allumeur de réverbère? Cependant, il se dit en lui-même, peut-être bien que cet homme est absurde. Cependant, il est moins absurde que le roi, que le vaniteux, que le businessman et que le buveur. Au moins, son travail a-t-il un sens? Quand il allume son réverbère, c'est comme s'il faisait naître une étoile, ou plus, ou une fleur. Quand il éteint son réverbère, ça endort la fleur ou l'étoile. C'est une occupation très jolie. C'est véritablement utile puisque c'est joli. Lorsqu'il aborda la planète, il salua respectueusement l'allumeur. « Bonjour, pourquoi viens-tu d'éteindre ton réverbère ?»«
C'est la consigne, » répondit l'allumeur.
« Bonjour. »«
Qu'est-ce que la consigne ?»«
C'est d'éteindre mon réverbère. Bonsoir. » Et il le ralluma.
La cinquième planète était très curieuse. C'était la plus petite de toutes. Il y avait là juste assez de place pour loger un réverbère et un allumeur de réverbère. Le petit prince ne parvenait pas à s'expliquer à quoi pouvait servir quelque part dans le ciel, sur une planète sans maison ni population. Un réverbère et un allumeur de réverbère, cependant, il se dit en lui-même, « Peut-être bien que cet homme est absurde. Cependant, il est moins absurde que le roi, que le vaniteux, que le businessman et que le buveur. Au moins, son travail a-t-il un sens ? Quand il allume son réverbère, c'est comme s'il faisait naître une étoile de plus ou une fleur. Quand il éteint son réverbère, ça endort la fleur ou l'étoile. C'est une occupation très jolie. C'est véritablement utile puisque c'est joli. Lorsqu'il aborda la planète, il salua respectueusement l'allumeur. Bonjour, pourquoi viens-tu d'éteindre ton réverbère ?
C'est la consigne, répondit l'allumeur.
Bonjour, qu'est-ce que la consigne ?
C'est d'éteindre mon réverbère.
Bonsoir.
Et il le ralluma.
Mais pourquoi viens-tu de le rallumer ?
C'est la consigne, répondit l'allumeur.
Je ne comprends pas, dit le petit prince. « Il n'y a rien à comprendre, » dit l'allumeur. « La consigne, c'est la consigne. »«
Bonjour !» Et il redéfinit son réverbère. Puis, il s'épongea le front avec un mouchoir à carreaux rouges.
« Je fais là un métier terrible. »«
C'était raisonnable autrefois. »« J'éteignais le matin et j'allumais le soir. » J'avais le reste du jour pour me reposer et le reste de la nuit pour dormir.
La sixième planète était une planète 10 fois plus vaste. Elle était habitée par un vieux monsieur qui écrivait d'énormes livres. « Tiens, voilà un explorateur » s'écrit-il quand il aperçut le petit prince. Le petit prince s'assit sur la table et souffla un peu. Il avait déjà tant voyagé. « D'où viens-tu ? » lui dit le vieux monsieur. « Quel est ce gros livre ?» dit le petit prince. « Que faites-vous ici ?»«
Je suis un géographe, » dit le vieux monsieur.
« Qu'est-ce qu'un géographe ?»«
C'est un savant qui connaît où se trouvent les mers, les fleuves, les villes, les montagnes et les déserts. »«
Ça, c'est bien intéressant, » dit le petit prince. « Ça, c'est enfin un véritable métier. »
Il jeta un coup d'œil autour de lui sur sa planète du géographe. Il n'avait jamais vu encore une planète aussi majestueuse.
« Elle est bien, votre planète ?»
« Est-ce qu'il y a des océans ?»«
Je ne puis pas le savoir, » dit le géographe.
« Ah !» Le petit prince était déçu.
« Et des montagnes ?»«
Je ne puis pas le savoir, » dit le géographe.
« Et des villes, et des fleuves, et des déserts ?»«
Je ne puis pas le savoir non plus, » dit le géographe.
« Mais vous êtes géographe ?»«
C'est exact, » dit le géographe.
« Mais je ne suis pas explorateur. »«
Je manque absolument d'explorateur. »
« Ce n'est pas le géographe qui va faire le compte des villes, des fleuves, des montagnes, des mers, des océans et des déserts. Le géographe est trop important pour flâner. Il ne quitte pas son bureau. »
La septième planète fut donc la Terre. La Terre n'est pas une planète quelconque. On y compte 111 rois, en n'oubliant pas, bien sûr, les rois nègres, 7000 géographes, 900 000 businessmen, 7,5 millions d'ivrognes, 311 millions de vaniteux, c'est-à-dire environ 2 milliards de grandes personnes. Pour vous donner une idée des dimensions de la Terre, je vous dirai qu'avant l'invention de l'électricité, on y devait entretenir, sur l'immense des 6 continents, une véritable armée de 462 511 allumeurs de réverbères. Vu d'un peu loin, ça faisait un effet splendide. Les mouvements de cette armée étaient réglés comme ceux d'un ballet d'opéra. D'abord venait le tour des allumeurs de réverbères de Nouvelle-Zélande et d'Australie. Puis ceux-ci, ayant allumé leurs lampions, s'en allaient dormir. Alors entraient à leur tour dans la danse les allumeurs de réverbères de Chine et de Sibérie. Puis aussi s'escamotaient dans les coulisses. Alors venait le tour des allumeurs de réverbères de Russie et des Indes, puis de ceux d'Afrique et d'Europe, puis de ceux d'Amérique du Sud, puis de ceux d'Amérique du Nord. Et jamais ils ne se trompaient dans leur ordre d'entrée en scène. C'était grandiose. Seul l'allumeur de l'unique réverbère du pôle Nord et son confrère de l'unique réverbère du pôle Sud menaient des vies d'oisiveté et de nonchalance. Ils travaillaient deux fois par an.
Le petit prince traversa le désert et ne rencontra qu'une fleur. Une fleur à trois pétales, une fleur de rien du tout. « Bonjour !» dit le petit prince. « Bonjour !» dit la fleur. « Où sont les hommes ?» demanda poliment le petit prince. La fleur, un jour, avait vu passer une caravane. « Les hommes ? Il en existe, je crois, 6 ou 7. Je les ai aperçus, il y a des années, mais on ne sait jamais où les trouver. Le vent les promène, ils manquent de racines, ça les gêne beaucoup. « Adieu !» fit le petit prince. « Adieu !» dit la fleur.
C'est alors qu'apparut le renard.
« Bonjour !» dit le renard.
« Bonjour !»
répondit poliment le petit prince, qui se retourna mais ne vit rien.
« Je suis là !»
dit la voix.
« Sous le pommier !»«
Qui es-tu ? »
dit le petit prince.
« Tu es bien joli !»«
Je suis un renard !»
dit le renard.
« Viens jouer avec moi !»
lui proposa le petit prince.
« Je suis tellement triste !»«
Je ne puis pas jouer avec toi !»
dit le renard.
« Je ne suis pas apprivoisé !»
Ah. « Pardon !»
fit le petit prince. Mais, après réflexion, il ajouta.
« Qu'est-ce que signifie « apprivoiser »?»«
Tu n'es pas d'ici !»
dit le renard.
« Que cherches-tu ?»«
Je cherchais les hommes !»
dit le petit prince.
« Qu'est-ce que signifie « apprivoiser »?»«
Les hommes !»
dit le renard.
« Ils ont des fusils et ils chassent. C'est bien gênant. Ils élèvent aussi des poules. C'est leur seul intérêt. Tu cherches des poules ?»«
Non !»
dit le petit prince.
« Je cherche des amis. Qu'est-ce que signifie apprivoiser ?»«
C'est une chose trop oubliée. »
dit le renard.
« Ça signifie créer des liens. »«
Créer des liens ?»«
Bien sûr !»
dit le renard.
« Tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon, tous semblables à 100 000 petits garçons. Et je n'ai pas besoin de toi, et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu'un renard semblable à 100 000 renards. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde, je serai pour toi unique au monde.
Je commence à comprendre,
dit le petit prince.
Il y a une fleur, je crois qu'elle m'a apprivoisé.
C'est possible,
dit le renard.
On voit sur la terre toutes sortes de choses.
Oh, ce n'est pas sur la terre,
dit le petit prince. Le renard parut très intrigué.
Sur une autre planète ?
Oui.
Il y a des chasseurs sur cette planète-là ?
Non.
Ça, c'est intéressant. Et des poules ?
Non.
Rien n'est parfait,
soupira le renard. Mais le renard revint à son idée.
Ma vie est monotone. Je chasse les poules, les hommes me chassent. Toutes les poules se ressemblent, et tous les hommes se ressemblent. Je m'ennuie donc un peu. Mais si tu m'apprivoises, ma vie sera comme ensoleillée. Je connaîtrai un bruit de pas qui sera différent de toutes les autres. Les autres pas me feront rentrer sous terre. Le tien m'appellera hors du terrier comme une musique. Et puis, regarde, tu vois, là-bas, les champs de blé. Je ne mange pas de pain. Le blé, pour moi, est inutile. Les champs de blé ne me rappellent rien. Et ça, c'est triste. Mais tu as des cheveux couleur d'or. Alors, ce sera merveilleux quand tu m'auras apprivoisé. Le blé qui est doré me fera souvenir de toi. Et j'aimerai le bruit du vent dans le blé.
Bonjour.
Bonjour.
Je suis là, sous le pommier.
Qui es-tu ? Tu es bien jolie.
Je suis un renard.
Viens jouer avec moi. Je suis tellement triste.
Je ne puis pas jouer avec toi. Je ne suis pas apprivoisée.
Ah, pardon. Qu'est-ce que signifie apprivoiser ?
Tu n'es pas d'ici. Que cherches-tu ?
Je cherche les hommes.
Les hommes ? Ils ont des fusils et ils chassent. C'est bien gênant. Ils élèvent aussi des poules. C'est leur seul intérêt. Tu cherches des poules ?
Non, je cherche des amis. Qu'est-ce que signifie apprivoiser ?
C'est une chose trop oubliée. Ça signifie créer des liens.
Créer des liens ?
Bien sûr, tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon tout semblable à 100 000 petits garçons. Et je n'ai pas besoin de toi. Et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu'un renard semblable à 100 000 renards. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin de l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde. Je serai pour toi unique au monde.
Je commence à comprendre. Il y a une fleur. Je crois qu'elle m'a apprivoisée.
C'est possible. On voit sur la terre toutes sortes de choses.
Oh, ce n'est pas sur la terre.
Sur une autre planète ?
Oui.
Il y a des chasseurs sur cette planète-là ?
Non.
Ça, c'est intéressant. Et des poules ?
Non.
Rien n'est parfait.
Bonjour, dit le petit prince. Bonjour, dit l'aiguilleur. Que fais-tu ici ? Dit le petit prince. Je trie les voyageurs par paquets de 1000, dit l'aiguilleur. J'expédie les trains qui les emportent, tantôt vers la droite, tantôt vers la gauche. Et un rapide illuminé, gronde comme le tonnerre, fit trembler la cabine d'aiguillage. Ils sont bien pressés, dit le petit prince. Que cherchent-ils ? L'homme de la locomotive l'ignore lui-même, dit l'aiguilleur. Et gronda en sens inverse une seconde rapide illuminée. Ils reviennent déjà ? Demande le petit prince. Ce ne sont pas les mêmes, dit l'aiguilleur. C'est un change. Ils n'étaient pas contents là où ils étaient. On n'est jamais content là où on est, dit l'aiguilleur. Un gronda le tonnerre d'un troisième rapide illuminé. Ils poursuivent les premiers voyageurs ? Demanda le petit prince. Ils ne poursuivent rien du tout, dit l'aiguilleur. Ils dorment là-dedans, ou bien ils bâillent. Les enfants seuls écrasaient leur nez sur les vitres. Les enfants seuls savent ce qu'ils cherchent, fit le petit prince. Ils perdent du temps pour une poupée de chiffon, et ils deviennent très importants, et si on leur enlève, ils pleurent. Ils ont de la chance, dit l'aiguilleur.
Et maintenant, bien sûr, ça fait 6 ans déjà. Je n'ai jamais encore raconté cette histoire. Les camarades qui m'ont revu ont été contents de me revoir vivant. J'étais triste, je leur disais, c'est la fatigue. Maintenant, je me suis un peu consolée. C'est-à-dire, pas tout à fait. Mais je sais bien qu'il est revenu à sa planète, car au lever du jour, je n'ai pas retrouvé son corps. Ce n'était pas un corps tellement lourd. Et j'aime la nuit écouter les étoiles. C'est comme 500 millions de grelots. Mais voilà, qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire. La muselière que j'ai dessinée pour le petit prince, j'ai oublié d'y ajouter la courroie de cuir. Il n'aura jamais pu l'attacher au mouton. Alors je me demande, que s'est-il passé sur sa planète ? Peut-être bien que le mouton a mangé la fleur. Tantôt je me dis, sûrement non. Le petit prince enferme sa fleur toutes les nuits sous une cloche, sous un globe de verre, et il surveille bien son mouton.